après-midi, vous parlez un petit peu de la vocation sacerdotale. Alors, non pas que j'ai un désir que vous rentriez au séminaire, hein. Je vous rassure tout de suite là-dessus, hein. C'est tout simplement parce que, en général, en fin de retraite, on a des considérations qui sont un peu plus pratiques. Et souvent, donc, enfin, soit on parle des écoles, donc, et puis puisque moi je suis dans un séminaire, ben, je vais vous parler du séminaire, vous voyez. Des vocations, parce qu'il me semble que la question de la nature de la vocation n'est pas toujours très claire dans la pensée de beaucoup de fidèles. Donc, qu'est-ce que c'est que la vocation? Comment savoir si on est appelé par le bon Dieu? Donc, au séminaire, hein, je parle, voilà. Je vous rassure tout de suite, c'est pas, je vais pas vous faire, hein, voilà. On parle du séminaire ici. Donc, ou encore aussi, oui, certains se trompent un petit peu sur ce en quoi consiste la vocation. Est-ce que l'Église exige, attend, espère aussi, bon, donc des jeunes qui rentrent au séminaire. Alors, il me semble que, puisque maintenant c'est mon domaine depuis 9 ans ici, ce serait bien que je vous puisse vous faire part un petit peu de mon expérience dans ce domaine et du rôle que vous avez à jouer en tant que mère, grand-mère, future mère ou en tant que catholique tout simplement pour les vocations. Vous voyez. Donc je suis en contact avec des jeunes qui ont placé leur idéal en Notre Seigneur puisqu'ils sont rentrés au séminaire, hein, qui ont une certaine générosité. Et qui ont aussi un certain équilibre naturel, en tout cas pour ceux qui sont acceptés, parce que donc parmi ceux que je côtoie, il n'y a pas que ceux qui rentrent, il y a aussi malheureusement ceux que je refuse, donc ceux que je n'accepte pas, parce qu'il y a des difficultés. Mais en tout cas, donc je rencontre un certain nombre de jeunes, donc certains sont rentrés au séminaire, d'autres ont frappé à la porte du séminaire. Donc les uns ont été acceptés, d'autres ont été retardés, et d'autres ont été refusés malheureusement. Alors, sur ceux qui sont acceptés, eh bien, je constate que même certains d'entre eux ont des lacunes. Et lacunes qui sont telles que un certain nombre ne persévèrent pas. Donc, entre 83 et 95, il y a eu un peu 48% des Français qui n'ont pas persévéré, donc parmi ceux qui sont rentrés au séminaire. Et entre 96 et 2000, je prends l'année 2000 parce que ceux qui sont rentrés en l'an 2000, ce sont ceux qui sont ordonnés prêtres en 2006, et donc ils sont maintenant diacres. Et donc, comme on peut changer d'avis encore jusqu'au sous-diaconat, jusqu'à la cinquième année, c'est la raison pour laquelle je m'arrête à la promotion de l'an 2000. Donc, ça fait, il y a eu 56% de départs, donc il y a eu une augmentation dans le nombre de départs. Augmentation relative, quand même, donc c'est pas du simple au double, hein. Mais je ne regarde ici que les Français. Alors déjà, sur ceux qui partent, je constate que ceux qui sont passés dans les écoles ou ont été formés dans nos écoles, il y a moins de départs. Donc ça, c'est une constatation, que ceux qui donc sont soit convertis ou soit ne sont pas passés, tout en étant traditionnalistes, ne sont pas passés dans les écoles. Donc certains rentrent au séminaire, et d'autres, donc malheureusement, je ne peux pas les accepter. Sur ceux qui rentrent, je vous dis, certains ont malheureusement des lacunes telles que certains ne persévèrent pas. Et même chez ceux qui persévèrent, il y a aussi malheureusement des lacunes, parce qu'hélas, nous avons tous nos qualités et nos défauts, et certains traîneront ces lacunes toute leur vie sacerdotale. Alors, à côté de cela aussi, et je vous rassure tout de suite, et c'est d'ailleurs très consolant, nous avons au séminaire de très belles âmes, de jeunes gens qui sont vraiment très équilibrés naturellement et très équilibrés spirituellement. Donc de très bons jeunes gens, bien sous tout rapport. Donc, grâce à Dieu. Et ça, il me semble que c'est en grande partie le fruit de 30 ans de combat. Donc Monseigneur Lefebvre a vu juste en faisant une société sacerdotale de prêtres. Il a vu juste en encourageant la fondation de familles vraiment catholiques. Il a vu juste en encourageant les bonnes écoles catholiques. Puisque nous voyons aujourd'hui que des jeunes gens qui sont issus de très bonnes familles, de très bonnes écoles, et qui étaient eux-mêmes équilibrés, eh bien, feront de très bons prêtres. Alors, pour que vous ayez maintenant donc une idée un petit peu plus juste de ce en quoi consiste la vocation, et que vous compreniez un petit peu mon rôle en tant que directeur de séminaire sur l'acceptation, le refus, les retards, et sur ce que vous devez faire en tant que laïc pour faire en sorte que je puisse accepter le maximum de jeunes gens, et que pour que ces jeunes gens que j'accepte puissent arriver au bout, vous avez un rôle à jouer. Parce qu'il y a un rôle qui a joué, bien sûr, dès le berceau. Alors pour cela, il est important de savoir en quoi consiste la vocation. Du côté des fidèles, très souvent, il y a une erreur entre ce que j'appellerais l'élément déclencheur d'une vocation de la vocation proprement dite. J'entends par élément déclencheur de la vocation le désir d'être prêtre, vous voyez, qui fait que un jour, paf, un jeune homme se dit « Oh, j'aimerais bien être prêtre ». Ou alors un petit enfant, même des 5-6 ans, a dit « Oh, j'aimerais bien être prêtre ». Donc ça, c'est ce que j'appelle l'élément déclencheur de la vocation, un désir d'être prêtre, qui apparaît parfois très tôt, au moment de la première communion, en contact avec un prêtre, en l'assistant aux ordinations, ou alors à un certain moment dans la vie, bon, un désir d'être prêtre. C'est ce que j'appelle l'élément déclencheur de la vocation. Ainsi, un enfant de 6 ans, un jour, dit à sa mère « Maman, plus tard, je sais ce que je vais faire. Je vais être prêtre. » Alors, la maman était toute contente, bien sûr. Et donc, elle dit « Pourquoi tu veux être prêtre ?»« Eh bien, parce que les prêtres, ils travaillent que le dimanche. » Alors, la pauvre maman, elle était un peu déçue, là. C'est pas forcément un motif, vous voyez, très noble, vous voyez, qui est forcément... Alors, donc, l'élément déclencheur de la vocation, c'est le désir d'être prêtre. Maintenant, ensuite, après, on peut avoir un désir même passionné, sans qu'il y ait vocation. Certains jeunes ont un désir d'être prêtre et n'ont pas la vocation. Voyez. Parce que l'Église va juge de la vocation en fonction de critères objectifs, de qualité physique, morale, intellectuelle et spirituelle. Donc au départ, l'inconnu, c'est la vocation. On ne sait pas si tel jeune homme a la vocation ou pas. Par contre, tel jeune homme a telle qualité et tel défaut. L'Église sait très bien quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour être un bon prêtre. Et par conséquent, eh bien, elle va choisir parmi ses ministres ceux qui ont ces qualités. Donc celui qui a un défaut rédhibitoire, eh bien, en ce moment-là, l'Église dira « Non, celui-là, je n'en veux pas comme prêtre ». Et donc, quels sont les critères que l'Église a donnés qui permettent de juger de la vocation? S'il n'y avait que l'élément subjectif de l'attrait, ce serait très difficile pour moi en tant que directeur du séminaire, je m'appelle pas le curé d'Ars, hein, même si on est au séminaire Saint-Curé d'Ars, eh bien, pour juger d'une vocation. D'abord, un désir, il change. Un jour, on a un désir, après, le désir diminue. Ah ben oui, alors aujourd'hui, j'ai un peu moins la vocation. Ah ben aujourd'hui, j'ai un peu plus la vocation. Ben alors, on s'en sort plus, vous voyez. Si on s'appuie uniquement sur le désir, un jour, on désire une chose, un autre jour, on désire plus. Même dans le mariage, c'est la même chose. Bon, il y a eu un attrait au départ, mais ensuite, après, cet attrait peut diminuer. Donc, vous perdez pas votre état de vie d'époux ou d'épouse, suivant que l'attrait est plus ou moins fort vis-à-vis de l'autre, quoi. Parce que sinon, ça, vous voyez. Donc, il y a un attrait au départ, normalement, mais ensuite, après, il y a ces qualités objectives. Alors, quelles sont les qualités que l'Église attend du prêtre et demande à ceux qui sont chargés de la sélection des candidats au sacerdoce? Le premier critère de l'Église, c'est une origine honorable. Alors, qu'est-ce que l'Église entend par origine honorable? L'origine honorable s'entend ici de la valeur morale des familles. C'est-à-dire que normalement, un jeune qui veut entrer au séminaire ne devrait rien avoir à cacher de ses ascendants directs. L'expérience montre, par exemple, que les enfants divorcés, très souvent, sont déséquilibrés. Alors vous me direz, c'est pas de leur faute. Peut-être. Moi, je juge sur ce qui est. Et en raison de ce déséquilibre, eh bien, c'est un obstacle à la vocation. Donc la première chose que nous devons regarder, nous prêtres, par rapport aux candidats qui se présentent au séminaire, c'est d'abord les familles, vous voyez. Alors il pourra peut-être y avoir après une exception, confirme la règle, en fonction des circonstances, si les parents ont divorcé alors qu'il avait déjà 18 ans, si c'était un jeune homme qui était bien équilibré. Bon, après il faudra, disons, creuser un petit peu plus. Mais déjà, aujourd'hui, en tout cas mon expérience de prêtre, déjà quand j'étais prieur pendant 8 ans où j'étais à Lyon, et encore plus aujourd'hui depuis que je suis au séminaire, je constate que les enfants divorcés, eh bien, ont, hélas, un déséquilibre. Très souvent, très très souvent. Et ça se comprend d'ailleurs aussi, hein, parce que dans le plan de Dieu, normalement, eh bien, l'enfant, il a besoin du père, il a besoin de la mère. Et il a besoin d'un père et d'une mère unis. Et il a besoin d'un père qui soit réellement père et d'une mère qui soit réellement mère. Vous voyez? Et donc, l'équilibre des enfants dépend en grande partie de l'équilibre des parents. Même après, si les parents sont ensemble et qu'ils se disputent du matin au soir, il y a nécessairement des incidences sur les enfants. Nécessairement. Oui. Et donc, si on veut que les enfants soient épanouis et puissent ensuite être de bons prêtres, eh bien, il est nécessaire qu'ils vivent dans un climat serein. Oui, voilà. Donc, première chose que l'Église nous demande de regarder, c'est la famille. Et d'ailleurs, même pour les mariages aussi, tout ce que je dis là, d'ailleurs, sur le séminaire, est valable, mutatis mutandis, pour le mariage aussi, hein. Quand j'étais plus jeune, bon, avec peu d'expérience, eh bien, avec la mentalité plus jeune, si vous voulez, je me disais, ouais, bon, ben, moi, je regarde les jeunes, je regarde pas trop les parents. De plus en plus, je regarde les parents, hein. Je regarde la tête des parents, ou des beaux-parents, hein. Ça, c'est clair. Si vous connaissez d'ailleurs les trois qualités, normalement, ça c'est pour le mariage, alors par contre, que doit avoir la belle-mère, donc pour que ça se passe bien. Donc les trois qualités qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit à la fois sourde, aveugle et muette. Et là, en ce moment-là, ça se passe très très bien. Mais c'est rarement le cas, malheureusement. Donc une origine honorable, c'est le premier critère. Ensuite, une santé suffisante. Par exemple, maintenant ce sont des maladies qu'on peut soigner, mais par exemple, l'épilepsie, par exemple, eh bien sûr que celui qui est épileptique, il n'y est pour rien, le pauvre. Et il peut être très équilibré par ailleurs, mais un prêtre qui a une crise d'épilepsie à la messe, les fidèles, ils font comment, vous voyez? Donc il y a des maladies comme cela qui sont aussi un obstacle. Ensuite, un caractère ouvert et franc, ni mou, ni trop violent. Il faut pas que le prêtre ait un caractère trop mou parce qu'il ne se lèvera pas le matin. Et puis pas trop violent non plus, parce que les pauvres fidèles, on veut les épargner. Donc vous avez entendu la conférence Monsieur Lefebvre à midi, donc il parlait de ces prêtres qui avaient un sale caractère, et donc les pauvres fidèles, ils sont obligés de supporter. Mais autant que je peux, quand même, j'essaie de faire en sorte que les séminaristes n'aient pas de trop, ne soient pas trop violents, pour vous épargner demain des disputes avec votre curé. Ensuite, un esprit capable d'acquérir la science dont le prêtre a de plus en plus besoin, vous voyez. Donc, c'est sûr que pour être prêtre, on demande que le bac au départ, mais il faut avoir en plus quand même certaines aptitudes pour les études de philosophie et théologie. Et donc là aussi, ce n'est pas donné forcément à tout le monde. Et donc, c'est quand même un critère. Alors, l'objection toujours classique, c'est le curé d'Ars. Ouais, le curé d'Ars, il n'était pas très doué, lui, donc. Alors, en général, quand les jeunes gens me disent ça, alors je dis, ayez déjà la vertu du curé d'Ars, on verra après, hein. Mais le curé d'Ars n'était pas un imbécile, hein. Il n'était pas du tout idiot, hein. Il était très intelligent. Il avait une intelligence même, je pense qu'il avait un QI supérieur à la moyenne. Ça, je suis convaincu. Seulement, il n'avait pas fait de latin, donc, comme les cours étaient donnés en latin, donc il y avait des choses qu'il ne comprenait pas, vous voyez. Mais il avait beaucoup de bon sens. Il y a qu'à écouter les sermons du curé d'Ars pour s'apercevoir qu'il était très 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 sensé. Il était intelligent et sensé, vous voyez. Et quand on doit refuser quelqu'un pour la science, eh bien, c'est qu'il y a certaines lacunes. Le bac d'aujourd'hui, mais c'est vraiment un niveau. Enfin, le bac d'aujourd'hui, c'est rien, vraiment rien. Hein. On donne le bac à tout le monde. Donc celui qui n'a pas le bac, eh bien, c'est qu'il y a un problème, à mon avis. Enfin, pour être prêtre, en tout cas, je parle. Hein. Ensuite, un jugement droit, qualité la plus essentielle de l'esprit. Donc le jugement droit, c'est en fait le bon sens, vous voyez. Donc un prêtre, d'ailleurs, peut très bien ne pas être très doué pour les études, mais il faut au moins qu'il ait au moins du bon sens, vous voyez. Et le bon sens, en fait, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Vous voyez, il y a des gens qui ont du bon sens et des gens qui n'ont pas de bon sens. Donc ça, c'est une qualité qui est quasi innée. Il y a des gens patapouf qui mettent toujours les pieds dans le plat. On aura beau leur expliquer, la fois suivante, ce sera pareil, vous voyez, exactement, kiff kiff bourricot. Mais bon, c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est tout. Hein. Il y a des Gaston Lagaffe, c'est comme ça. Bon. Alors normalement, le prêtre, il est appelé à prendre des décisions du matin au soir. Donc, que ce soit au confessionnal, que ce soit ensuite dans l'entretien dans le bureau, il est appelé quand même à prendre des décisions. Donc, s'il répond n'importe quoi, les pauvres fidèles, là, ils sont orientés. Après, ils font n'importe quoi aussi, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Ça, ce sont les critères qui sont donnés, que je vous donne ici, c'est les critères qui étaient donnés dans les statuts synodaux de Lyon en 1949, vous voyez, pour la sélection des prêtres dans les années 50. Et puis, enfin, un cœur pur, doué de quelque générosité. Un cœur pur, pureté du cœur. C'est bien sûr capital pour la chasteté, et c'est une évidence qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne frappent pas à la porte du séminaire parce qu'il y a des problèmes de pureté, ou qui ne peuvent pas rester au séminaire en raison de problèmes de pureté. Et là, les parents ont une responsabilité, bien sûr, c'est évident. S'ils laissent les enfants voir n'importe quoi à la télévision ou autre, ou Internet, eh bien ensuite, après, ils ne comprennent pas pourquoi leur enfant n'est pas rentré au séminaire, ou pourquoi leur enfant sort du séminaire. Et parfois, il y a un problème qui vient en partie des parents, hein. Ah, mais sur ces problèmes-là, on va pas en parler. Parce qu'ils vont pas dire, vous comprenez, séminariste. D'ailleurs, le prêtre, le directeur de séminaire n'est même pas au courant, il sait pas forcément les motifs. Mais, c'est évident qu'il y a certains séminaristes quittent le séminaire pour cette raison-là. Alors, le séminariste, il a l'air d'être très bien, il présente bien, mais il arrive pas à observer, la vertu de chasteté, bah, bien sûr qu'il ne peut pas être prêtre, c'est évident. Oui. Et alors après, il y a des antécédents parfois, des parents qui ont été trop négligents. Alors quand on analyse ces critères de l'Église, eh bien, on peut constater que finalement, on peut conclure que le climat idéal pour l'éclosion des vocations, c'est la naissance et la croissance dans une bonne famille chrétienne. Et maintenant, c'est vrai que, comme je vous disais, on peut très bien appliquer ces critères aussi pour le mariage. Parce que pour avoir une bonne famille, c'est quand même bien que le conjoint ait un caractère ouvert et franc, ait un cœur pur et aussi doué de quelques générosités. Bon, tout ça aussi, c'est sûr. Hein. Mais enfin, moi, je ne parle pas du mariage, c'est pas chacun son boulot. Hein. Mais quand même, pour le mariage, si, quand même, s'il fallait juste dire un petit mot, c'est que, pour mieux comprendre la vocation, donc, parce que c'est la vocation que je parle, c'est que vous avez, pour bien comprendre en quoi consiste la vocation, vous voyez, c'est comme ça d'ailleurs que j'explique aux jeunes gens quand ils viennent me voir et qu'ils savent pas trop, parce qu'il y a aussi des jeunes qui viennent me voir et qui savent pas du tout s'ils sont aussi dans la vocation ou pas, donc c'est pour essayer de démêler un peu la chose. Je leur dis, vous voyez, pour qu'un mariage se fasse, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'un mariage se fasse, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut normalement qu'il y ait un attrait du jeune homme pour la jeune fille, la jeune fille pour le jeune homme, qu'il y ait un attrait au moins d'un côté au départ, vous voyez. S'il n'y a pas d'attrait ni d'un côté ni de l'autre, ben rien ne se fait. Hein, vous voyez. Alors maintenant, imaginons qu'il y ait un attrait très fort des deux côtés. Eh bien, c'est insuffisant pour que le mariage puisse coller. Parce que on ne se marie pas pour un jour, on se marie pour la vie. Et comme nos sentiments, encore une fois, varient, eh bien, si la passion diminue, toute passion connaît une phase ascendante et descendante, et la question, c'est pas, aujourd'hui la passion, elle est forte, mais demain, quand elle aura diminué, qu'est-ce qui va rester en commun? Et c'est ça qu'il faut regarder. Donc il faut regarder les qualités et les défauts des deux qui désirent s'unir. Et c'est la raison pour laquelle la première question que les parents posent lorsqu'ils apprennent que leur enfant désire se marier, c'est pas « est-ce que tu l'aimes ?» C'est d'abord « est-ce qu'il est travailleur ?»« Est-ce qu'il a un métier ?»« Est-ce que tu connais les parents ?»« Est-ce qu'il est tradit ?»« Est-ce que ses parents, est-ce qu'ils sont aussi des gens équilibrés ?» etc. Ce sont toutes les questions que posent les parents sensés, vous voyez. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à voir ensuite, après, si ça peut marcher. Et moi-même, qui ai quand même préparé aussi pas mal de jeunes au mariage, et qui voit aujourd'hui les résultats après des jeunes que j'ai pu préparer, eh bien, parfois, il y a des difficultés. C'est bien qu'aujourd'hui, je n'hésite pas du tout à dire aux jeunes gens, lorsqu'ils viennent voir assez tôt, ce qui n'est pas, qui est pas rarement le cas, hein, mais qui est parfois le cas, eh bien, je n'hésite pas à dire quelles sont les ombres au tableau. Parce que, même si ensuite, après, les jeunes se marient, si déjà ils sont au courant avant de se marier, des problèmes qu'ils vont rencontrer dans le mariage, ils auront plus de facilité à assumer les problèmes. Tandis que s'ils étaient dans un doux rêve, avant de se marier, avant on voit que les qualités, après on ne voit plus que les défauts, et alors courage, hein, pour arriver à tenir après toute une vie. Donc il faut que nous, qui sommes extérieurs, eh bien nous essayons déjà, dès le départ, de compenser un petit peu, l'amour est aveugle, on le sait bien, mais d'essayer quand même de donner au moins quelques éléments de réflexion pour aider les jeunes ensuite après à s'engager. Comme pour un jeune qui désire entrer au séminaire aussi, qui peut-être a parfois un attrait qui est un peu superficiel, eh bien je lui montre toutes les exigences de la vocation. Je lui dis, est-ce que c'est bien ça que vous voulez? Alors si c'est bien ça qu'il veut, en ce moment-là il rentre. Et ensuite, si c'est pas ça, ben en ce moment-là il ne rentre pas, bien sûr. Donc c'est important de voir ça aussi comme ça. Alors je dis, le premier critère pour juger d'une vocation, donc c'est la famille. Alors c'est une des difficultés que je rencontre déjà. Une difficulté énorme que je rencontre, ce sont les jeunes qui se présentent au séminaire où il y a des problèmes de famille, quoi. Alors, je vous donne un cas, une année, j'ai quand même accepté, mais à plusieurs parmi ceux-là sont sortis, c'est pas du tout étonnant, hein. Deux enfants divorcés, un dont le père était neurasthénique, un autre dont la mère était déséquilibrée, un dont la mère était décédée et le père remarié, mais qui avait été mal accepté par sa belle-mère. Ça, en une seule promotion. Alors, c'est évident que parmi ceux-là, bah, plusieurs sont partis, hein. Mais c'est pas du tout étonnant. Par contre, j'aurais très bien pu ne pas les accepter du tout, mais j'ai voulu laisser une chance. Alors maintenant que j'ai plus d'expérience, c'est vrai que je cherche à faire plus attention. Oui. Ensuite, on peut constater que les vocations naissent spécialement dans les familles nombreuses. Sur les 121 séminaristes français que j'ai eus depuis que je suis ici, la moyenne des enfants par famille est de 5,6 enfants par famille. Vous voyez, c'est la moyenne sur les 121 séminaristes français qui sont rentrés au séminaire. Ensuite, une constatation que j'ai pu faire, c'est l'importance de l'école primaire. Oui. L'importance de l'école primaire pour les vocations. J'ai été instituteur pendant 2 ans, donc avant d'entrer au séminaire, donc à Fanjeau, enfin c'était en ce moment l'école qui était dans le village, c'est avant que l'école qui est devenue l'école de Montréal, et pendant ces 2 années, j'avais que 12 élèves, donc c'était pas grand-chose, hein, en primaire, bon après je surveillais bon, l'ensemble des élèves, mais j'étais instituteur en 8e, 7e, CM2, et donc j'ai eu un élève qui était en CM1, et après je l'ai retrouvé au séminaire, quelques années plus tard, donc première année de séminaire, bon maintenant il est prêtre. Mais c'est très amusant parce que j'ai retrouvé un peu ses copies, en fait, quand je l'ai retrouvé comme séminariste, alors qu'il était passé de la classe de 8e, donc il avait passé son bac. Et donc, et là, je me suis rendu compte déjà du lien qu'il y avait, donc l'importance du primaire. Et aujourd'hui, je le constate de plus en plus, que beaucoup de faiblesses qu'on rencontre chez les séminaristes viennent de l'école primaire. Je ne parle pas de l'école secondaire, je parle de l'école primaire. On a des séminaristes qui ont quitté le séminaire, je le sais, et le motif pour lequel ils ont quitté le séminaire, c'est victime de la méthode globale. C'est-à-dire que s'ils avaient eu une autre formation, eh bien, probablement, ils auraient été plus aptes aux études de philosophie, ils auraient pu être prêtres. Victime de l'école, de la méthode globale. Lire, écrire, parler, les règles de politesse, les règles de savoir-vivre, mais tout ça c'est du primaire. Hein. Enfin, c'est pas même après c'est le berceau. Déjà dès le berceau c'est la maman. Bon, et après c'est l'école. Mais tout ça c'est quand même de l'ordre, si vous voulez, des premières années. Vous voyez. Le sens de l'autorité, l'esprit de sacrifice. Tout cela on doit l'apprendre aux enfants dès le jeune âge. Ce sont pas des choses qu'on apprend dans le secondaire. Eh bien tout cela c'est donné donc aux petits. Et parmi les séminaristes donc qui rentrent au séminaire en ce moment, plus des 2/3 sont passés par nos écoles. Mais seulement 1/3 ont fait leur primaire dans nos écoles. Alors je pense qu'il y en aura davantage parce qu'au départ il y avait moins d'écoles, mais ça explique en tout cas aussi certaines lacunes. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que je demande aux séminaristes, quand ils rentrent au séminaire, depuis quand date votre vocation, voyez ? Eh bien sur les séminaristes qui sont rentrés, jusqu'ici, séminaristes français, 45% ont pensé à la vocation avant l'âge de 12 ans. Donc, avant l'âge de 12 ans, c'est encore l'école primaire, voyez ? Très important l'école primaire. Parce que l'enfant est simple, vous voyez. À l'adolescence, tout se complique. Alors, l'adolescent, il devient hyper compliqué, mais l'enfant est simple. Donc, l'enfant qui est appelé par le bon Dieu, si le bon Dieu l'appelle, eh bien, il va répondre spontanément, vous voyez. Il se pose pas de questions. C'est après, à l'adolescence, quand les passions naissent, que là, du coup, après, ça se complique. Mais parmi ces jeunes, donc, qui sont rentrés, la moitié ont pensé à la vocation, donc, avant l'âge de 12 ans. Après, un certain nombre d'entre eux ont avoué qu'ils n'y ont plus repensé. Après, elle est revenue. Mais dans certains cas, eh bien, probablement, elle n'est pas revenue chez d'autres jeunes. Pas revenue parce qu'ils sont abîmés. Ils sont abîmés au contact du monde, résultat, mais ils ont perdu leur vocation. Oui. Ensuite, 16% d'entre eux ont pensé à la vocation entre l'âge de 13 et 16 ans. Et 36% après l'âge de 17 ans. Donc, le primaire est une période très importante. Avant l'âge de 12 ans, donc c'est une période très importante parce que c'est là qu'on donne les bases, c'est là qu'on donne vraiment l'esprit catholique, qu'on donne les habitudes de vie, au niveau naturel et surnaturel. Ensuite, un moment très délicat, c'est la crise d'adolescence. Alors ça, ici, c'est spécialement le combat pour la pureté qui est très 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 délicat. D'où l'importance après, lorsqu'on s'adresse à des femmes ou des jeunes filles, sur la question de la tenue vestimentaire. Parce que les jeunes gens ne sont pas des jeunes filles, et beaucoup de jeunes gens perdent la pureté, bon, en raison de ce qu'ils voient à la télévision, à Internet et ailleurs, mais aussi en raison de toutes ces personnes qui sont mal habillées, vous voyez. Alors, beaucoup de jeunes filles, c'est beaucoup plus par vanité, elles se rendent pas du tout compte, en fait, des tentations dont elles sont l'objet. Bien qu'elles ne s'en rendent pas compte, le pape XII dit qu'elles sont quand même responsables. Et il dit d'ailleurs que si beaucoup de femmes et de jeunes filles se rendaient compte des tentations qu'elles provoquent en raison de leur attitude équivoque, soit par leurs vêtements, soit par leur attitude équivoque, il ajoute, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Donc il dit bien qu'elles sont quand même responsables. Elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Alors bien sûr qu'on peut très bien, les filles pourront très bien dire, mais ils n'ont qu'à regarder ailleurs. Hein. C'est facile à dire, ça. Mais si elles sont elles-mêmes provocatrices, eh bien, elles sont responsables. Ensuite, la jeune fille qui est la mieux habillée du monde et qui a une attitude, je dirais, droite, elle peut être l'objet de tentation. Là, elle n'est pas du tout responsable. C'est évident qu'en ce moment-là, la responsabilité est uniquement celle du jeune homme. un jeune homme peut avoir une intention vicieuse vis-à-vis d'une personne qui est tout à fait équilibrée. Vous voyez. Et alors là, en ce moment-là, la responsabilité est à 100% du côté du jeune homme. Mais si la jeune fille a soit un vêtement équivoque, soit une attitude équivoque, eh bien la jeune fille a une responsabilité, c'est évident. C'est... Même si elle ne s'en rend pas compte. Parce que très souvent, la jeune fille, elle, c'est uniquement la vanité, elle désire plaire, donc elle n'a pas du tout d'intention mauvaise. Mais le garçon, bah, lui, il est fait différemment, et donc du coup, il peut tomber. Quoi. Donc la crise d'adolescence, c'est une deuxième étape très délicate. Et puis ensuite, après, la troisième tranche d'âge donc importante, c'est la tranche d'âge des 18-25 ans. Ça, c'est encore un autre problème, c'est que beaucoup de jeunes de 18 ans ne sont pas mûrs. Et donc, à 18 ans, bah, les jeunes gens et les jeunes filles quittent les écoles. Donc, puisqu'ils quittent les écoles, ils sont davantage en contact avec le monde. Alors, normalement, on peut dire, normalement, ils sont censés avoir eu les bases qui leur ont été données dans les écoles, ce qui est vrai. Mais comme ils n'ont pas toujours la maturité suffisante... Eh bien, le premier contact avec le monde, eh bien, est occasion de chute pour beaucoup. Surtout après, on a la sensation de la liberté, de vouloir enfin respirer, faire un peu ce qu'on veut, dans des justes limites, bien sûr, qu'on veut pas dépasser, mais on n'empêche qu'on descend toujours plus bas, comme je disais hier dans le sermon. Donc, certaines personnes perdent aussi, certaines jeunes gens ou jeunes filles peuvent perdre leur vocation, donc, dans ce contact du monde qui paraît, qui d'un certain côté nous repousse, mais qui, d'une autre manière aussi, nous attire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces jeunes à cette période-là? Bon, lorsque les filles quittent Pouilly, en général, les trois conseils que je leur donne, c'est d'abord d'essayer d'avoir, de garder contact avec une religieuse ou avoir contact avec un prêtre, surtout pour les grandes décisions de la vie. Ensuite, un bon mouvement de jeunesse. Et puis pour une fille, donc, avoir une bonne amie sur laquelle elle puisse s'appuyer. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est évident que, en fonction des fréquentations, la fréquentation est capitale, à cet âge-là, vous voyez. Et puis aussi, je leur conseille de faire une retraite au moins tous les deux ans pour garder le cap. Vous voyez. Donc, en ce moment-là, une personne, une jeune fille ou un jeune homme qui font des retraites tous les deux ans et qui font partie d'un bon mouvement de jeunesse, ont de bons amis, ont un directeur spirituel, normalement, il n'y a pas trop de danger. Mais s'ils ne prennent pas ces moyens, ben, ils peuvent s'affadir et ensuite, après, se glisser petit à petit. Ensuite aussi, nous avons parmi ce qui frappe à la porte du séminaire, certains qui sont de jeunes convertis. Donc les jeunes convertis sont tout feu, tout flamme, et parfois ils confondent conversion et vocation. Un jeune converti, il a compris que Dieu existe, il a compris qu'on doit lui donner la première place, alors du coup, il y en a qui sont généreux, ils veulent tout donner, tout de suite. Mais il faut d'abord que ça prenne racine, vous voyez. Et donc s'ils rentrent tout de suite, en général c'est une catastrophe. Donc personnellement, je demande toujours qu'il y ait 2 ans d'attente, pour que ça puisse mûrir. La première année liturgique, ben, c'est tout beau, tout neuf. La deuxième année, c'est là qu'on peut voir ce que vaut la personne. Et si ensuite, après, elle tient, elle a toujours ce même désir, en ce moment-là, on peut l'admettre. Ouais. Mais sinon... Et d'ailleurs, dans l'Église, on peut constater que du côté des convertis, des vrais convertis, il n'y a jamais eu beaucoup de convertis à être prêtres. Bon, l'abbé Portail me dirait mieux que moi, il a fait des études là-dessus. Mais certains... peuvent arriver au sacerdoce, mais ça n'a jamais été dans l'Église la majorité. Oui. Ensuite aussi, dans le rôle des parents, dans la vocation de leurs enfants, il y a un danger. Dans certaines familles, c'est la maman qui a la vocation à la place de l'enfant. Et c'est assez classique, hein. C'est assez classique, hein. Et ça, c'est aussi un danger parce que, bien sûr que c'est à l'enfant de rentrer et non pas aux parents. Donc, là, ça ne marche pas du tout. D'abord, si la mère qui a vocation à la place de l'enfant, ça ne marche pas. Hein. Donc, je rassure les enfants à ce sujet. Mais ensuite, vous avez aussi des cas où, alors, de fait, il y a une vocation. Et la maman, elle est tellement contente quand qu'elle sent qu'il y a une vocation chez le fils que... Elle prend la température toutes les semaines, quoi. Aujourd'hui, tu penses toujours au sacerdoce, hein. Tu veux toujours être prêtre, j'espère, hein. Tu veux être prêtre, hein. Alors, la femme, bon, le gars, il en a assez, hein. L'enfant, il en a assez, bon. Fiche-moi la paix, et puis bon, finalement, je vais être militaire, allez, bon. Ah bon? Tu veux plus être prêtre? Pourquoi? Peut-être que, hein. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a un âge où, normalement, les parents doivent avoir assez de réserve pour, essayer de favoriser les vertus chez l'enfant qu'elle sente plus disposée au sacerdoce, mais sans le lui rappeler sans cesse. Vous voyez, ça, c'est important. Et c'est très important. Et du côté du prêtre, d'ailleurs, c'est la même chose. Nous-mêmes prêtres, quand on a l'habitude après des âmes, eh bien, on voit souvent la vocation avant le jeune homme ou la jeune fille, quand on les connaît bien. Par contre, c'est pas parce qu'on le voit avant qu'on va le dire tout de suite. Parce que la vocation, c'est comme un fruit qui mûrit. Et donc, il faut laisser mûrir. Il faut pas laisser pourrir sur l'arbre, mais il faut laisser mûrir. Parce que si on détache le fruit trop tôt, eh bien ensuite, après, les dés sont pipés, on voit plus très clair. Et puis la personne, en plus, si elle a l'impression qu'elle a été violentée ou qu'elle a l'impression que c'est qu'elle est rentrée sur influence extérieure, eh bien à ce moment-là, ça ne marche pas. C'est très important que le oui soit prononcé par la personne elle-même et non pas par une personne extérieure. Et je constate ça aussi chez beaucoup de jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens ont du mal à s'engager dans la vie et ils aimeraient bien qu'on leur donne la réponse à leur place. Voyez, et je ne la donne pas. Alors, c'est pas parce que je suis méchant que je vais pas leur donner. C'est que mon oui, moi, je l'assume, mais je vais pas assumer le oui des autres, hein. Donc, c'est à chacun d'assumer son oui. Et donc, c'est à chacun de prononcer son oui. Si le oui est sollicité d'une façon trop forte par quelqu'un d'extérieur, en ce moment-là, après coup, la personne peut se dire, ben, je me suis fait avoir. En fait, c'est lui qui a voulu que je sois prêtre, ou c'est elle qui a voulu que je sois religieuse. Et puis, du coup, en ce moment-là, après, on a tendance à remettre en question son choix. C'est-à-dire que si c'est un choix personnel, ben oui, j'ai bien réfléchi, c'est bien moi qui voulais ça, eh bien on le tiendra beaucoup plus facilement. Donc nous, pour aider les gens par contre après, lorsqu'ils n'arrivent pas à se décider, pour les aider à se décider, alors ce qu'on fait, on fixe des dates butoirs. Et j'ai constaté qu'en général, plus les jeunes sont âgés, plus ils ont du mal à se décider. C'est beaucoup plus facile de rentrer au séminaire à 18 ans qu'à 30 ans, hein, ou 35 ans. J'ai constaté ça, enfin en général, hein. Il y a des jeunes de 30-35 ans qui savent se décider, mais beaucoup ne savent pas se décider. Et du coup, donc, ce que je fais, je fixe une date butoir, et comme ça oblige le jeune homme, eh bien, je lui dis, c'est oui ou c'est non. Mais alors, moi, je veux que dans un an, la réponse, hein, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois, en fonction du jeune homme, en fonction des circonstances. Et si vous venez après, ce sera trop tard. Donc là, du coup, ça l'oblige à se décider. Parce qu'il y a des questions qui embarrassent dans la tête, alors on repousse toujours au lendemain. Mais le lendemain, on n'est pas beaucoup, on n'est pas du tout plus avancé que la veille, hein. Et donc, après, on repousse encore au lendemain, et puis finalement, bah, la vie s'écoule, et puis on a toujours rien décidé. Donc ça, c'est encore un autre problème. Alors, vous avez le problème de ceux qui ont du mal à se décider à rentrer, mais vous avez un autre problème, c'est ceux qui ont du mal à se décider au moment du sous-diaconat. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a beaucoup de départs, malheureusement, enfin, ou trop en tout cas, sans doute, en quatrième ou cinquième année. Des fidèles ne comprennent pas. Ils disent, comment ça se fait? Ça fait 4-5 ans qu'il est là-dedans, et il sort. Ben pourquoi? Parce que justement, arrivé au moment de se décider définitivement, il recule. Il n'arrive pas à se décider. On voit ça. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a des difficultés de ce côté-là. Alors, parmi les conseils-là à donner, par contre, c'est très important que les parents confient des responsabilités à leurs enfants, et spécialement aux adolescents. À l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, il faut confier des responsabilités pour que l'enfant ait confiance en lui et pour qu'ensuite, après, il soit capable de prendre des décisions. Si c'est papa et maman qui prend toutes les décisions à la place de l'enfant, jusqu'à l'âge adulte, bah après il n'a jamais appris à prendre des décisions, donc du coup après il se repose aussi sur les autres. Et du coup il n'arrive pas ensuite à prendre des décisions dans la vie. Alors vous avez les parents qui donc ont la vocation à la place de l'enfant, et puis après vous avez les parents qui s'opposent aussi à la vocation de l'enfant. Ça arrive aussi. J'ai déjà eu une mère de famille par exemple qui elle, c'était son fils unique, c'est vrai, elle a gardé son enfant une année de plus. Alors son enfant, il avait quand même 26 ans. Donc à 26 ans, alors, il devait quand même capable de prendre une décision, quoi. Ah non, mais puisque c'est mon enfant, je garde une année de plus. Vraiment, c'est impressionnant. Bon, il a fini par rentrer au séminaire, mais un an plus tard. Moi, j'ai écrit une lettre salée aux parents parce que je trouvais que c'était vraiment exagéré. Enfin bon. Et tout ça, des gens bien tradis, bien sûr. Enfin, il y a des choses qu'on comprend pas. Et puis ensuite, après, parmi les obstacles aux vocations du côté des parents, bien il y a les mères poules, vous voyez. Les mères poules, c'est un obstacle à la vocation. Parce que nous, ce qu'on cherche pour être prêtre, c'est des hommes. Et les mères poules ne forment pas des hommes. L'abbé de Jandal, lorsqu'il était supérieur de district, c'était en 95, je crois, qu'il était à Saint-Nicolas, donc à la mutualité, il y avait une journée. Et puis on lui avait dit de dire 3 mots. Bon, il n'était pas encore directeur de séminaire en ce moment-là. Et alors les 3 mots qu'il avait dit, c'était « je cherche des hommes, je cherche des hommes, je cherche des hommes ». Après, l'année suivante, il a été nommé directeur du séminaire d'Écône. J'espère qu'il a trouvé des hommes là-bas. Mais moi aussi, je cherche des hommes. Et donc, pas de mère poule. Parce que ça s'oppose à... Parce que si vous voyez, c'est arrivé que des parents, en sachant que leur petit voulait rentrer au séminaire, ils l'ont choyé. Ils ont rajouté des coussins. Parce que c'était presque Jésus, vous voyez, Jésus dans la crèche qui était là. Et ça, c'est catastrophique pour une vocation. Vous voyez. Le prêtre, eh bien, il doit être prêtre, mais il est aussi victime, vous voyez. Or, pour le prêtre, il encaisse des coups dans la vie. Hein. Il y a des moments très agréables dans une vie sacerdotale, mais on ramasse des coups aussi. Et pour ramasser des coups, ben, il faut être un homme, vous voyez. Si on n'est pas un homme, ben, face aux coups, on tombe, on flanche, vous voyez. Vous avez des miséricordes, parce que miséricorde, c'est sûr. Donc, lorsque les prêtres s'assoient pour l'office, donc il y a une position possible où le prêtre se repose sur les accoudoirs, et donc une position qu'on appelle les miséricordes. Et donc, Père Baïf disait qu'à Marseille, il y avait deux miséricordes, celle du curé et celle du vicaire. Sur celle du curé, il y avait écrit sacerdos et pontifex, ça veut dire prêtre et pontife. Et puis sur celle du vicaire, il y avait écrit sacerdos et victima. Donc prêtre et victime. Mais le prêtre, normalement, il doit être les deux, oui, il doit être à la fois prêtre et victime. Hein. Alors maintenant, c'est intéressant aussi de voir les circonstances de l'appel. Dans quelles circonstances les jeunes gens décident de rentrer au séminaire? Donc là, je leur ai posé la question. Donc, quel était pour vous l'élément qui a paru déterminant dans votre entrée au séminaire? Donc, sur plus de 100 séminaristes, 121 séminaristes, 24, c'est au cours d'une retraite, donc l'importance des retraites pour l'élection d'une vocation. 6 ont répondu que c'est au cours d'une messe. 1, c'est lors de sa première messe chantée. 1 autre, lors de son premier service de messe. Donc le service de messe est un bon moyen aussi. 1 autre, lors de la découverte de la messe traditionnelle. 5, lors de leur première communion. Vous voyez, parmi ceux qui sont rentrés à Flavigny, 5 ont décidé d'être prêtres le jour de leur première communion. Et 9 autres au cours d'une autre cérémonie liturgique. 4 attribuent leur vocation à leur famille. Alors ça veut pas dire, c'est pas très 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 gentil pour les parents, mais en fait c'est qu'ils ont aussi... Ils n'ont pas estimé que c'était pour eux l'élément déterminant, alors que je suis persuadé personnellement que c'est école plus famille, bien sûr, plus moment de jeunesse, etc., qui bien sûr forment les vocations. Hein. Mais eux, dans beaucoup de cas, ils ont vu plutôt un fait particulier. Bon. Et comme c'était l'élément déterminant, donc l'élément qui les a aidés à se décider, il n'y en a que 4 qui ont parlé de la famille. 13 ont dit l'aide d'un prêtre, 3 lors d'une discussion, 9 lors d'une lecture ou d'un sermon, et 4 lors d'une visite au séminaire. Alors ça veut dire que, pour moi qui connais donc ces choses-là, ça veut dire que il faut essayer ensuite, après, de favoriser, eh bien, si on veut favoriser les vocations, ben favoriser ce genre de choses. Donc, favoriser le service de messe chez vos enfants, favoriser la visite au séminaire, favoriser les bonnes lectures, etc. Alors maintenant, si vous voulez avoir le témoignage de séminaristes, je vous donne quelques témoignages qui sont intéressants sur donc l'origine de leur vocation. C'est donc dans la lettre numéro 52 que vous pourrez prendre si vous le souhaitez, donc lettre aux amis et bienfaiteurs. Dans quelles circonstances votre vocation est-elle née? J'ai toujours aimé la liturgie, même à l'église du village, je voulais servir la messe. Ensuite, j'aimais connaître ma religion et parfois prendre position par rapport à mes camarades de classe. Avant d'avoir 15 ans, je ne réfléchissais pas vraiment à l'idée d'être prêtre. Mais peut-être ne voulais-je pas y penser. C'est quand un prêtre m'a demandé si je n'y avais jamais pensé que ma vocation a commencé à mûrir pour s'affirmer vraiment, clairement, petit à petit. Je crois que je dois surtout ma vocation aux 3 prêtres que la Providence a successivement mis sur mon chemin dans le but que je poursuive les desseins de Dieu en accomplissant sa volonté. Chacun à leur manière, ils ont permis qu'à leur exemple, je grandisse dans la foi, que j'ai une grande dévotion à Notre-Dame et dans la Sainte Messe. Un autre écrit... C'est dans une école traditionnelle que j'ai commencé à penser sérieusement à la vocation entre l'âge de 15 et 17 ans. Ce désir a été surtout stimulé par le don de soi que nous montraient les prêtres de mon école, par leur très grande bonté. De plus, mon contact avec la liturgie et mon rôle de sacristain ont enraciné en moi un profond attachement au culte de l'Église. Le facteur déterminant était cependant le fait que l'Église, dans la crise actuelle, a un grand besoin de prêtres. 3e témoignage. Ma vocation est née en 3 temps. Le premier, c'était à l'âge de 8 ans, alors que je servais régulièrement à la messe. Au retour en quart d'une kermesse, je regardais avec d'autres enfants de cœur un petit film sur le Saint-Curé d'Ars. C'est ainsi que pour la première fois, je pensais au sacerdoce. Le désir fut assez fugitif, et je n'y pensais plus pendant toute ma scolarité, jusqu'à la classe de seconde, où ce fut la 2e étape. Ce sont les commentaires de mes camarades de classe qui m'ont fait repenser à l'éventualité de la vocation. Ceux-ci disaient, après m'avoir vu servir la messe, que la soutane m'allait très bien. Ouais, la soutane, tiens. Même si à l'époque, je me défendais fortement de tous ces commentaires, vous imaginez, donc un garçon de 15 ans, c'est sûr que... Ces remarques eurent l'avantage de réactualiser l'appel de Dieu en moi. Mais, ayant d'autres idées en tête, j'oubliais rapidement ces pensées. C'est pendant l'été qui suivit mon bac de français qu'eut lieu le troisième temps, le plus décisif. J'assistais aux ordinations sacerdotales. La vue de ces prêtres qui venaient d'être ordonnés et qui imposaient les mains aux fidèles fut vraiment l'élément qui me décida à faire le pas. Cela me fit une telle impression que quasiment du jour au lendemain, je devins sûr que je devais entrer au séminaire. Un autre. Depuis 2 ou 3 ans, je m'occupais de jeunes adolescents dans différentes circonstances, le milieu scolaire, les mouvements de jeunesse. Petit à petit, mon regard sur ces jeunes qui m'étaient confiés changea. Se manifestait en moi un souci toujours plus grand de leurs âmes. Mon directeur spirituel, à qui je me confiais plus intimement, m'aida à déceler la volonté de Dieu, ses desseins nouveaux sur moi. Il répondit à mes questions, écarta avec prudence mes objections. Ses conseils collaient toujours plus à mes doutes. J'y voyais l'action de l'Esprit-Saint, ce qui me réconfortait, alors que tous les projets que j'avais faits depuis la fin de mes études secondaires étaient remis en cause. Il m'a soutenu dans ces longs moments, mais ne m'a jamais poussé en répondant pour moi à la vocation, alors que dans un premier temps, j'attendais cela de lui. Après avoir écarté tous les doutes de mon esprit, je décidai d'entrer au séminaire. Cependant, comptant sur la grâce de Dieu pour m'aider à supporter tous les renoncements, dès cet instant, je fus apaisé. 5e témoignage. La circonstance décisive de mon entrée au séminaire a été d'étudier dans une classe préparatoire. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de la nécessité de l'apostolat, auprès des jeunes notamment. En effet, dans cette prépa, j'ai été amené à côtoyer les jeunes qui sont appelés à devenir l'élite de la pensée française dans les années à venir. Je ne me trouvais pas face à l'élève moyen ou médiocre, mais face aux meilleurs élèves formés par l'éducation nationale, républicaine et laïque. Plusieurs d'entre eux devaient par la suite intégrer l'école normale supérieure ou d'autres écoles prestigieuses telles que HEC ou Sciences Po. Le fait de me rendre compte que ces futurs professeurs universitaires, cadres, vivaient pour la plupart dans un état de misère morale, de vide spirituel plus qu'alarmant, m'a donné le courage de faire le pas et d'entrer au séminaire. C'est essentiellement cela qui m'a poussé à y aller. Voir que toute cette jeunesse dans l'ensemble très douée, ces filles et ces garçons au crâne si bien rempli de tout ce qui constitue la culture dans le monde, avaient une âme si vide de l'essentiel, vide de Dieu. Au cours de cette période étudiante en prépa, j'ai suivi par ailleurs les activités du MJCF qui m'ont donné l'occasion de faire un tant soit peu d'apostolat auprès des jeunes de mon âge, ce qui m'a également aidé à entrer au séminaire. Donc vous voyez quelques témoignages qui montrent les circonstances diverses dont le bon Dieu se sert pour attirer des jeunes à lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour diminuer le nombre de départs parmi les séminaristes ? Tout d'abord, on peut constater que chez les religieux, il y a le même pourcentage de départ. Nous avons eu une réunion de maîtres des novices ici à Flavigny le 3 février. Donc il y avait les capucins, il y avait les dominicains, il y avait les rédemptoristes, la communauté de la transfiguration, je sais plus, encore on avait une ou deux autres communautés que j'oublie. Et puis donc on a parlé des vocations. Et donc, on pouvait constater que dans tous les ordres, en fait, il y a aussi la moitié de départ. Alors bon, c'est pas non plus trop surprenant dans le sens où déjà avant la crise, il y avait en général le tiers de départ. Vous voyez. Maintenant, malgré tout, je pense que si les fidèles connaissaient mieux la nature de la vocation, si les jeunes gens étaient mieux éduqués, mieux formés, eh bien, il y aurait moins de départ, c'est sûr. Donc, dans les causes des départs, il y a des manques d'équilibre, il y a le refus de l'esprit de sacrifice, il y a l'immaturité, il y a des problèmes de fort interne qui sont vus avec le directeur spirituel, problèmes de scrupules ou autres. Ensuite, problèmes dans le domaine des études, l'incapacité de la vie commune, des faiblesses psychologiques ou des problèmes moraux. Oui. Bon, après, il y a différents... Chaque cas est individuel, donc chaque circonstance est particulière. Mais pour éliminer les départs, je pense qu'il faut faire en sorte que les jeunes soient plus équilibrés. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Et puis aussi, donc, je vous ai dit, donc, aider, en confiant des responsabilités, donc, aider les jeunes à s'engager, vous voyez. Parce que ce qui est vrai de la vocation est vrai aussi du mariage, hein. Les jeunes se marient de plus en plus tard, hein. En moyenne, je crois que les jeunes aujourd'hui se marient 5 ans plus tard qu'il y a 10 ou 15 ans, je crois. Donc c'est un problème qu'on rencontre pas uniquement au séminaire. Donc pour limiter les départs, je pense qu'il faut travailler à donner aux jeunes une nature équilibrée et développer l'esprit de foi et l'esprit de sacrifice. C'est clair que l'esprit de foi est capital, bien sûr, pour être prêtre. C'est pas une promotion, c'est pas. Et puis l'esprit de sacrifice aussi, puisque le prêtre, c'est l'homme du sacrifice. Et éviter aussi l'esprit critique, voyez. Je pense qu'une des raisons pour laquelle aussi certains jeunes ne rentrent pas au séminaire, c'est à cause de l'esprit critique dans les familles traditionnelles. Bon, le français est très critique, bon, c'est sûr. Mais il faut se dire que l'enfant croit et obéit, l'adolescent admire et choisit. Quand on décide de se donner sa vie pour quelqu'un ou pour une œuvre ou pour quelque chose de bon, c'est toujours pour un idéal, donc c'est quelque chose de positif. L'idéal est positif. Et donc, si vous cassez du sucre sur les curés, ben, faut pas vous étonner que vos enfants qui écoutent cela, ils disent, ah, c'est ça les curés, ah là là, ben, moi, je vais pas me faire curé, moi. C'est évident, c'est la logique, oui, c'est clair. Tandis que si l'enfant sent que dans votre famille, il y a un respect du prêtre en tant que prêtre, malgré ensuite les limites du prêtre, c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous d'être de bons prêtres, c'est clair. Mais si vous-même, vous avez ce sens du prêtre, voyez, indépendamment de ses qualités humaines ou de ses faiblesses humaines, eh bien, si vous savez regarder le prêtre en tant que prêtre, eh bien, et que vous communiquez cela à vos enfants, vous pourrez beaucoup plus facilement susciter une vocation, des vocations dans votre famille. Mais si au contraire vous développez l'esprit critique en regardant que l'aspect mesquin, petit, des qualités ou des défauts, surtout des défauts humains du prêtre, eh bien, en ce moment-là, vous n'allez pas les attirer. Mais même si vous voyez que les qualités humaines aussi, parce que si vous regardez que les qualités humaines et que votre fils n'a pas ces qualités humaines qu'à ce prêtre, qui a un dynamisme extraordinaire, qui a une bonne, eh bien, en ce moment-là, vous allez aussi décourager votre fils, qui se dira, ben oui, moi, j'ai pas les talents de ce prêtre, je pourrais pas être prêtre. Voyez. Donc, il faut qu'il y ait ce sens du prêtre, c'est-à-dire être capable de voir Dieu à travers le prêtre. Voyez. Si vous avez ce sens-là, eh bien, en ce moment-là, et que vous le communiquez à vos enfants, eh bien, certainement qu'il y aura beaucoup plus de chances qu'il y ait des vocations dans votre famille. Donc, comme je vous l'ai dit au début aussi, c'est que nous avons donc des difficultés, donc avec des jeunes qui ont certaines fragilités, même parmi ceux qui rentrent, hélas, pas parmi tous, heureusement, mais nous avons aussi donc de très très bons jeunes gens, et ça c'est très rassurant. J'ai constaté aussi que, par exemple, bon, une ancienne de Pouilly qui est rentrée au Carmel d'Aynès, près de Bordeaux, dans ce Carmel, il n'y avait pas eu une seule religieuse qui a tenu depuis 1986, donc c'est depuis 19 ans, vous voyez. Et puis elle, bon, vraiment, ça se passe bien. Donc, et je crois qu'au Carmel en Belgique aussi, je crois que c'est la même chose. Et puis même chez les Capucins aussi de Morgon, c'est pareil. Dans les Capucins, à un moment donné, le Père Antoine, il disait, moi, j'ai l'impression qu'il faut au moins l'âge de 30 ans pour tenir chez les Capucins aujourd'hui, vu la jeunesse actuelle qui est faible, vous voyez. Et maintenant, certains qui sont plus jeunes tiennent. Et ils disent, bah, ceux qui tiennent, ils viennent des écoles. Donc, et là, on voit le fruit des écoles. Voyez. Donc ça, c'est quand même très, très encourageant. École plus famille, toujours, mais c'est ce que je veux dire. Hein. Donc c'est le fruit de 30 ans de combat, d'attitude catholique, tout simplement. Hein. Donc bien sûr que mes objectifs en tant que directeur de séminaire, c'est d'augmenter pour le bien de vos âmes le nombre et la qualité des entrées, et puis ensuite après aussi limiter les départs. Mais comme vous comprenez, donc vous le comprenez, pour les départs, c'est quelque chose de très 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 complexe. Oui. Et beaucoup trop de fidèles jugent des départs sur des éléments qui leur échappent complètement. Parce que je vous ai dit que la majorité des départs relève du fort interne. Donc ça relève du fort interne, ça veut dire que ça relève. C'est même pas le directeur de séminaire, il est même pas au courant. Enfin, il est au courant que le séminaire s'en va, mais il n'est pas au courant du motif profond du départ. C'est quelque chose qui relève du fort interne, qui relève du fort interne de la conscience. Alors vous qui êtes simple fidèle, si vous le voyez qui sert ensuite la messe le dimanche suivant, il a bien pouce droit sur pouce gauche, il a la tête légèrement penchée, il est très pieux, il a un beau visage, il est rayonnant. Donc il dit, bah, pourquoi les compagnies du séminaire, celui-là, ça sera fait un très saint prêtre. Occupez-vous de vos affaires, c'est pas votre boulot. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, vous voyez. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de développer aussi le sens après de la vocation de frère. Vous constatez qu'il y a de plus en plus de frères. Il y a 20 frères au séminaire, il y a eu 20 frères au séminaire cette année, au moins répartis sur 3 ans, en plus des 3 frères qui sont là en permanence. Jusqu'ici, jusqu'à quelques années, certains voyaient à travers les frères un peu les sous-offres de l'Église. Vous voyez. Bah ouais, le gars, il a raté Saint-Cyr, bon, ma foi, il est sous-offre. Il n'est pas séminariste, bon, il est frère, c'est déjà ça, quoi. Ouais. Donc, en ce moment-là, si vous jugez la vocation de frère sous ce rapport, ça veut dire que c'est une vocation qui est négative. Voyez. Il n'a pas réussi, donc on lui a donné, bon, c'est pas le hochet, mais on lui a donné un petit quelque chose, bon, qui est en dessous, mais qui est quand même déjà pas mal, quoi, parce qu'il y a quand même la soutane. Et lui, ça lui va bien. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas la ceinture. Dans la ceinture, il n'a pas ce qui est le rabat, mais enfin, c'est quand même déjà bien, il a quand même la soutane. Donc, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. J'ai fait un sermon sur la vocation religieuse. Je vous ai montré ce qu'est la vocation religieuse. Les frères de la fraternité sont des religieux à sens plein. Le religieux, c'est quelqu'un qui donne toute sa vie au bon Dieu et qui choisit pour aller à Dieu un chemin qui est plus direct que celui emprunté par les gens du monde. Parce que il y a trois obstacles à la sainteté. C'est l'attachement au bien de ce monde, l'attachement au bien sensible, l'attachement à la volonté propre. Et le religieux, c'est celui qui choisit volontairement de prendre la voie de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance pour arriver plus vite au ciel. Et donc tous les frères de la fraternité, eh bien, c'est le motif pour lequel, eh bien, ils s'engagent comme frères. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir donner, bien sûr, à ces frères une activité qui soit en rapport avec leur don. Vous voyez, le prêtre est appelé à diriger les autres. C'est pas forcément donné à tout le monde de diriger les autres. Donc là, ça, c'est déjà un critère par rapport à une vocation plutôt de frère, une plutôt sacerdotale. Tout prêtre est appelé à diriger. On reçoit trois pouvoirs. On reçoit le pouvoir d'enseigner. Tout le monde, d'ailleurs, n'est pas enseignant. On reçoit le pouvoir de diriger et on reçoit le pouvoir ensuite de sanctifier. Pour pouvoir sanctifier, c'est facile, dire la messe, n'importe qui. Enfin, si on apprend à dire la messe, c'est pas difficile. Mais ensuite, après, il y a le reste. Et donc, tout le monde n'est pas forcément fait ni pour enseigner, ni pour diriger. Alors, celui qui a son bac, mais qui n'est pas pour autant fait pour diriger, eh bien, il n'a pas forcément une vocation, mon frère. Alors, s'il a une vocation sacerdotale. Et si, en plus, il a une certaine docilité, donc naturelle, et qu'il arrivera à s'épanouir dans une vocation, peut-être plus, avec dans des activités plus matérielles en complément, disons, eh bien, en ce moment-là, c'est peut-être le signe qu'il a peut-être plutôt une vocation de frère, vous voyez. Donc, faut pas dire bac égale prêtre. La moitié des frères ont le bac, là, vous voyez. On a le frère Cyril Marie qui est ici, il est ingénieur chimiste, il a bac plus 5, il est frère. Il est un professeur de latin au séminariste, il enseigne au séminariste, il est frère. Donc ce sont deux choses différentes. Le frère, c'est un religieux, le religieux, c'est celui donc qui emprunte par amour du bon Dieu une voie plus directe pour aller à Dieu. Le prêtre, c'est celui qui, bon, pense être appelé à donner sa vie aux âmes et donc à être appelé essentiellement à prêcher, à diriger. Mais parce que fait la différence en général dans une vie tout quotidienne, si vous voulez, entre le frère et le prêtre. Nous, du matin au soir, ce qu'on a en commun entre les frères et les prêtres, c'est compris. On est messieurs parce que on est des hommes de Dieu, dans un cas comme dans l'autre. Mais le prêtre, eh bien, du matin au soir, qu'est-ce qu'il fait essentiellement? Ben, il prêche et il dirige. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je vous parle. Après, bon, je vais vous diriger dans le bureau. Donc, c'est des conseils qu'on donne. Ça, c'est ce que fait le prêtre. Mais tout le monde n'est pas fait pour cela. Et ça, c'est important que les parents eux-mêmes le comprennent, parce que s'ils ont l'impression que la vocation de frère est une vocation au rabais, eh bien, ils seront un petit peu frustrés que leur fils n'est pas prêtre. Et il y a eu des cas où des jeunes gens ont quitté le séminaire pour cette raison. C'est-à-dire que, en fait, les parents n'ont pas admis que leur fils soit prêtre. J'ai eu un cas comme ça un jour, c'est... Bon, il faut pas compter tous les cas que j'ai pu avoir, on finirait pas. Mais une fois, le jour de la rentrée, de la rentrée des frères, les parents veulent me voir. Bon, je me mets toujours à la disposition bien sûr des parents, que ce soit pour la rentrée des séminaristes ou des frères. Et donc, les parents viennent dans mon bureau. Très bien. Le père me dit, je veux bien donner mon fils au bon Dieu, mais au moins qu'il soit prêtre. Et il se met à pleurer. Bon. Alors la mère s'est mise aussi à pleurer, et le garçon aussi s'est mis à pleurer. Donc ils étaient tous les trois à pleurer dans le bureau. Alors maintenant, ce qu'il faut que je sache, c'est quand j'accueille les parents dans le bureau, ben, c'est que j'apporte un paquet de Kleenex, comme ça je pourrais offrir à la sortie. Alors bien sûr que ce garçon, bon, j'ai essayé d'expliquer que la vocation était différente, que les critères étaient différents, que visiblement il avait des dons beaucoup plus à la vocation de frère que la vocation sacerdotale. Mais ensuite, après, lui, il était partagé entre le rêve des parents et ce dont il était capable. Et le résultat, ben, c'est que bien sûr, il a quitté le séminaire au bout de quelques mois. Et donc maintenant, le résultat, c'est qu'il n'est plus rien du tout. Et c'est vraiment dommage. Et enfin, il y aura d'autres cas comme cela. Donc là, il faut se dire, chacun son rôle. Normalement, nous, notre rôle, eh bien, c'était d'assurer le discernement et donc... Après, à vous de faire confiance. Et ce qui montre bien d'ailleurs que beaucoup qui sont frères au départ, c'est vrai, avaient pensé plus être prêtres. Mais en fait, vu les dons qu'ils avaient, on les a plutôt encouragés, même si on peut pas donner la vocation à la place de quelqu'un, on a vu qu'ils avaient les dons plus dans la vocation de frère, on leur en a parlé, on les a aidés ensuite à évoluer dans ce sens. Et ce qui montre bien que c'est bien leur vocation, c'est que sur 33 frères qui sont rentrés, on n'a eu que 6 départs, dont 4 en première année. Donc qu'il y en ait 4 en première année, c'est normal, puisque la première année, c'est le discernement. Il n'y en a que 2 sur les 33 qui sont partis. Donc ça fait 6% simplement qui sont partis après la première année. Donc si ce n'était pas leur vocation, on ne peut pas donner la vocation à quelqu'un, donc c'est sûr qu'ils seraient partis au bout de quelques mois. Ils auraient dit, ben non, moi je ne suis pas à l'aise là-dedans. Vous voyez. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, peut-être pour conclure, je pourrais vous terminer par quelques réflexions de séminaristes. C'est une question que je leur posais, bien sûr, c'est l'enthousiasme, bien sûr, des jeunes qui viennent de rentrer, hein, parce que c'est en fin de première année. C'est quel conseil donneriez-vous à un jeune homme qui travaillait par la question de la vocation et qui n'ose pas s'engager? Donc voici la réponse faite par un séminariste. Trois considérations me paraissent particulièrement aptes à aider, encourager et stimuler un jeune homme qui se poserait la question de la vocation. Tout d'abord, l'immense grâce que représente le simple fait d'être travaillé par la question dans un monde résolument athée, et la nécessité par conséquent de tout mettre en œuvre pour répondre favorablement à l'appel de Dieu si telle est sa volonté. En effet, envisager vraiment d'être prêtre dans une société qui s'attache chaque jour davantage à outrager le nom de Dieu est une grâce exceptionnelle. Ce don gratuit de Dieu paraît d'autant plus extraordinaire qu'il est accordé à un jeune homme issu d'un milieu peu catholique. Mais si cette supposée vocation s'épanouit à la suite d'une solide et authentique éducation chrétienne, elle n'en doit pas moins, bien au contraire, être considérée comme un merveilleux signe d'élection. À combien peu d'enfants est-il donné aujourd'hui de pouvoir grandir au sein d'une famille pleinement catholique? Dans ces conditions, il n'est pas possible de jouer à l'enfant gâté, aimant recevoir mais ne voulant pas donner. À une époque où tant d'âmes vivent loin de Dieu et se damnent, peut-on vraiment refuser de se préparer au sacerdoce quand Dieu semble nous y appeler? N'est-il pas folie de se montrer timoré quand il s'agit de faire la volonté de Dieu? Que les jeunes gens qui se posent la question de la vocation considèrent quelle immense espérance Dieu met en eux, quelle ingratitude et quelle lâcheté que de s'esquiver. Ensuite, pensons à la belle et joyeuse espérance que représentent les séminaristes pour les pieux catholiques. Autant les gens du monde pour qui l'argent, le pouvoir et le plaisir sont les seuls moteurs de l'existence s'attristent et ricanent lorsqu'ils apprennent qu'un jeune homme de leur entourage est entré au séminaire, autant les vrais et bons catholiques s'en réjouissent profondément. Les premiers frissonnent d'horreur en écoutant la nouvelle qui réveille douloureusement leur conscience assoupie, les seconds débordent de joie en voyant déjà dans la personne du jeune séminariste le prêtre de demain qui transmettra le dépôt de la foi à leurs enfants. Un tel constat est très réconfortant et encourageant, parce qu'il montre qu'il n'y a pas de plus belle manière de donner un sens à sa vie et de se rendre utile que d'entrer au séminaire en vue du sacerdoce. Si beaucoup de fidèles de la tradition prient et se sacrifient pour leurs prêtres et leurs futurs prêtres avec tant de zèle, c'est parce qu'ils mesurent vraiment combien leur sont nécessaires leurs prêtres. Aussi, à une époque où l'Église traverse une crise effroyable, les motifs et prétextes fallacieux, plus ou moins avoués, qui dissuadent d'entrer au séminaire, ne sont-ils pas indignes d'une âme quelque peu généreuse? Enfin, toutes les grandes victoires s'obtiennent toujours au prix d'efforts importants. Celui qui manque de courage et d'énergie ne fera jamais rien de grand dans quelque domaine que ce soit. Il gâchera assurément sa vie parce qu'il n'aura pas voulu se donner totalement. Qui voudrait éprouver un tel remords au soir de sa vie? On ne remporte aucune bataille si on mesure ses efforts, si on modère son audace et si on manque de persévérance. Lorsque la guerre est déclarée, qui oserait en toute bonne conscience refuser de partir au front alors qu'il est apte et en mesure de combattre? Aujourd'hui, Satan mène une guerre à mort contre l'Église et la chrétienté. Aussi, qui aurait la folle et déshonorante hardiesse de décliner la pressante mais silencieuse invitation du Christ roi à venir combattre sous son glorieux étendard? Tergiverser est déjà un signe de mollesse coupable. Dieu attend plus que jamais de ceux qu'il appelle discrètement à son service un oui magnanime, généreux et inébranlable. Alors priez beaucoup pour que un maximum de jeunes gens entendent cet appel et y répondent généreusement.